Oui, bonjour. Je viens d'entendre la fin de votre émission sur les pratiques des grands groupes. Dur, dur. Je suis dedans. Et ça fait mal. Voilà. Merci du courage de votre émission. Continuez. On sent moins seul. Au revoir.
Oui, bonjour. Daniel Mermet. J'ai connu moi-même ces entreprises où chacun est un petit soldat avec son petit uniforme, parce qu'en plus nous avions un uniforme dans cette entreprise. J'ai été cadre moi-même pendant longtemps et un jour on m'a dit, puisque le turnover était d'un an et demi, on m'a dit que j'étais trop vieux et j'avais pourtant 34 ans et on m'a prié de partir tout simplement. Il se trouve que la présidente de cette entreprise était elle-même à New York responsable des fusions-acquisitions pour la BNP. Et elle était donc présidente de cette entreprise de transport express mondialement connue. Voilà, et aujourd'hui, bien, j'ai quitté ce monde pour revenir vers des entreprises artisanales dans mon pays d'origine, la Bretagne, et j'ai des rapports humains auxquels je ne m'attendais plus. Et j'ai retrouvé le goût du travail aujourd'hui parce que justement, eh bien, les rapports humains ont complètement changé. Voilà. Merci. Au revoir.
Bonjour à toi, Daniel, et à toute ton équipe. Donc, dans ton émission, j'ai perçu dans ta réaction que tu avais du mal à réaliser que dans ces sociétés de consulting, beaucoup sont indifférents au sort des autres travailleurs, voire méprisants. Moi, je ne suis pas surprise. Autour de moi, beaucoup de gens s'indignent d'une misère, d'une exclusion grandissante. Mais au fond, dès que leur intérêt est en jeu, même s'ils sont déjà bien lotis, ils ne reculent devant rien. Les scrupules s'effacent souvent devant l'appât du gain ou des avantages divers. Au fond, il est facile d'acheter les gens. Le confort des uns nuit à la survie des autres, peu importe. La plupart du temps, les gens raisonnent bien, de façon humaine. Mais hélas, leurs actes ne sont pas conformes à leurs paroles. Daniel de Toulon.
Oui, salut Daniel. Ben écoute, je suis en train d'écouter ton émission là, notamment sur le témoignage des consultants qui ont contribué en fin de compte à fermer des boutiques. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que de façon non exhaustive, de donner la liste des boîtes chez qui ces consultants ont sévi, afin de bien montrer qu'il y a une vraie cohérence dans les stratégies qui sont mises en place. On travaille dans le dans la chimie, dans la métallurgie, dans le livre ou dans la logistique, parce que c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression pour certains que ces missions c'est un peu pissé dans un violon, mais il y a besoin d'informations pour bien montrer aux gens qui écoutent que ben, on ne peut pas être, on n'est pas à l'abri des restructurations et des licenciements. Merci encore pour ton émission, salut, à plus tard.
Excellent, excellent, ce message des auditeurs de la base. J'y suis sur le répondeur questionneur au 01 56 40 37 37. Message que j'écoute depuis Mayotte. Eh oui, on est toujours à Mayotte. Enfin, toujours, on est depuis hier. Et c'est passionnant ce qui se passe là. Mayotte, pour ceux qui l'ignoreraient, ce n'est pas le féminin de maillot, mais c'est une île. C'est une île qui fait partie des Comores et qui se situe, si vous regardez la carte, à l'embouchure du canal du Mozambique, c'est-à-dire au nord-ouest de Madagascar et en face du Mozambique. Et là, il y a ces quatre îles et une île des Comores dont l'une d'elles est française, comme la mamelle du même nom. Française, c'est Mayotte. Et les autres appartiennent à cet ensemble qui s'appelle les Comores. C'est une histoire compliquée, absolument passionnante. Mais il se passe ici, si vous souvenez de certains échos que la presse quand même a donné, qu'on assiste à une explosion de l'immigration clandestine. Alors ça a donné lieu à des tas de choses, des tas de réactions. En fait, c'est une situation qui est tout à fait comparable à ce qui se passe dans beaucoup de pays dans le monde. Mais pour ce qui concerne la France, eh bien, on trouve des situations analogues en Guadeloupe, en Guyane, etc. C'est simplement l'histoire. Et puis ce qu'on a vu récemment aussi, en Espagne, avec les enclaves espagnoles du Maroc, où on a tiré sur des pauvres gens qui cherchent à vivre moins mal. Mais tout ça, c'est les mêmes questions. Et ici, on en profite actuellement pour faire une chose assez épouvantable, qui consiste à remettre en cause le droit du sol, le droit du sol. Ça a l'air de rien, mais vous savez, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Goethe, qui disait, je ne suis pas trop sûr de Goethe, mon père, vous réagirez, le diable se cache dans les détails. Et Mayotte, ça a l'air d'être un détail de notre histoire, un détail de notre géographie, et pourtant il se pourrait bien que le diable se loge dans ce détail, un diable qui entrant par cette porte dérobée de l'Europe, qui est Mayotte, cette petite île, eh bien on profiterait pour remettre en cause ce droit sacré, évidemment, lié à notre histoire, qui est le droit du sol. C'est donc tout à fait passionnant, et voilà pourquoi nous continuons la promenade et les rencontres avec des gens tout à fait touchants et passionnants. C'est une chose. L'autre chose, c'est aujourd'hui quand même, une émission jusqu'à 18h, et qui n'est pas sans écho et sans rapport avec tout ce qui nous préoccupe ces temps-ci. Vous allez voir, c'est une nouvelle diffusion, revue et corrigée par Antoine Chao, d'un spectacle tout à fait étonnant. Vous allez découvrir après les messages que voici. Je rappelle encore une fois le numéro du répondeur de la base où j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
C'est un article de Jonathan Lys, correspondant de Haaretz. Le ministre de la Sécurité publique, Gideon Ezra, et le commissaire pour la police, Moshe Karadi, sont partis dimanche pour la France pour une visite de 4 jours afin de fournir des conseils aux responsables locaux du maintien de l'ordre sur les méthodes à employer pour gérer le type de comportement hostile à la loi qui s'est manifesté pendant les émeutes dans les faubourgs de Paris au cours des dernières semaines. Ezra et Karadi doivent rencontrer le ministre français de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, ainsi que le préfet de police. Les officiels chargés d'informer des détails du voyage disent qu'Ezra et Karadi rencontreront les unités de la police française chargées du contrôle des manifestations de foule. On s'attend à ce qu'Ezra et Karadi partagent avec leurs homologues français les leçons que les services de sécurité israéliens ont retirées de leur expérience avec les émeutes, y compris les événements d'octobre 2000. Les Français sont, dit-on, très intéressés par le savoir-faire israélien dans ce domaine. En outre, les deux envoyés devraient évoquer une coopération plus approfondie entre les forces de police israéliennes et françaises. Les officiels bien informés du contenu de la visite notent que les Français vont sans doute évoquer l'enquête qui se déroule actuellement en France à l'encontre de l'homme d'affaires Arkady Gaidamak, propriétaire du Betar Jérusalem. Les autorités françaises ont lancé un mandat d'amener à l'encontre de Gaidamak. Ce dernier est soupçonné d'un grand nombre de fraudes et de violations des lois. Israël, pour sa part, n'a pas l'intention d'extrader Gaidamak. Les officiels de la police et le ministère de la Sécurité publique ont refusé de commenter les détails de ce voyage. Voilà l'article.
Bonjour, ceci est un message à l'attention de Monsieur Nicolas Sarkozy. Le maître dit, quand le gouvernement repose sur des règlements et que l'ordre est assuré à force de châtiment, le peuple se tient à carreau mais demeure sans vergogne. Quand le gouvernement repose sur la vertu et que l'ordre est assuré par les rites, le peuple acquiert le sens de l'honneur et se soumet volontiers. C'était quelques lignes du chapitre 2 des entretiens de Confucius il y a plus de 2500 ans. Voilà, merci à vous, à toute l'équipe de la Bâtisse Issue. Salut.
Daniel, j'ai envie de dire à tous vos auditeurs que finalement la justice a rendu un grand service à la défense de l'environnement en donnant raison à la charte de l'environnement, d'une part au principe de précaution, et aux faucheurs volontaires en les relaxant. Pourquoi ? La première chose, c'est que la justice a estimé que les OGM, donc, pouvaient être un objet délétère à l'environnement. Ça, c'est la première des choses, car en relaxant les faucheurs volontaires, arguant du principe de précaution, forcément, ça veut dire qu'il peut y avoir danger sur les OGM. C'est la première fois, je dirais, que la justice en France le fait. C'est la première fois qu'un acte de justice ni les actes de justice qui ont été faits jusqu'à présent, qui systématiquement condamnaient les faucheurs volontaires. C'est important parce que ça veut dire que ce que nous disons, nous, depuis des mois, c'est-à-dire depuis des années, que nous sommes des résistants, je suis faucheur volontaire. Je suis faucheur volontaire militant et fier de l'être. Et je dois dire que le papy écolo en colère vous le dit à tous, les OGM, c'est quelque chose de dangereux, la justice elle-même reconnaît que ça peut être dangereux. Et donc le principe de précaution s'applique complètement dans ce cas. Et c'est ce qui a été fait à Orléans. Et je dis bravo.
J'ai lu Le Parisien, c'est rare, hein, dans les mains. Je l'achète jamais parce que, comme disait Coluche, c'est le journal à emballer le poisson. Mais j'ai eu dans les mains hier parce que j'étais dans une... J'attendais dans un endroit où vendait des journaux, une grande surface. Et j'y lisais comme ça pour le RER, B et D. C'est bien pareil que ce qu'on dit à toutes les informations, que ce soit à la radio ou la TSF, comme on veut, ou à la télévision. Il n'y a que des partisans, bien entendu, contre la grève. Il y a même des satires incroyables, quoi. On fait la grève pour votre bien. Qu'est-ce que ce serait si vous la faisiez pour notre mal? Enfin, des trucs comme ça, quoi. Mais pas un cheminot d'interviewer. Un cheminot de base, quoi. Parce que c'est des gens qui se battent pour la sécurité. En ce moment, les gens comprennent pas, mais bon, c'est terrible. J'ai aussi, moi aussi, eu affaire à des grèves de train. Je reconnais que c'est terrible, quoi. Surtout, c'est toujours l'hiver, la plupart du temps, et c'est très pénible. Mais si ces gens-là peuvent pas se battre, entre guillemets, pour nous, je sais pas ce qui le fera. Parce que moi, j'étais en Angleterre, il y a quelques années où ça venait d'être privatisé. Une dame s'est suicidée sous le train. Le train est passé dessus toute la journée, quoi. C'était privé, il fallait pas que ça s'arrête. Et le soir, quand il y a eu moins de trafic, ils ont débarrassé le corps. Alors, vous voyez, on en est là, quoi. La privatisation sauvage, c'est pas que l'OMC avec ce cher Pascal Lamy, entre parenthèses socialiste, qui se dit socialiste. Voilà.
Oui, bonjour Daniel. André Paysan. Je téléphone simplement pour donner une information. Notre cher ministère de l'Agriculture et notre chère Assemblée nationale organisent un débat sur l'agriculture durable et sur le développement durable. La seule chose, c'est que ce débat est organisé, sponsorisé par BASF, par Monsanto, par le Crédit Agricole et compagnie, Bayer Crop Science. C'est-à-dire qu'on va parler de développement durable, mais en fait, les gens qui sont là, ben, sont globalement à la table ronde, sont des gens qui font tous du développement durable. Mais c'est peut-être la lecture de notre cher et tendre ministre de l'Agriculture qui veut ça. Autre information non moins importante, vendredi après-midi à 15h, si vous êtes en Rhône-Alpes, n'hésitez pas à venir manifester avec nous à 15h devant le siège de Monsanto, qui est à Bron dans la banlieue lyonnaise. Ce vendredi à 15h devant le siège de Monsanto, si vous en avez marre des OGM, si vous avez envie de dire autre chose est possible, venez. À bientôt.
Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. Les entreprises coloniales furent des œuvres d'humanité. Aujourd'hui, le gouvernement s'est donné comme tâche d'élever le niveau de la vie sociale chez l'indigène. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale. Une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Nicolas Lambert et François-Xavier Verchave. France-Afrique, pompe Afrique.
Flight number 2, arriving from New York.
Actuellement, à l'exposition coloniale, cette ligue a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Les tout seuls. Oh, les saucisses.
Plus fort.
Mère,
Marie,
Marine,
Marine,
Cageux.
La France-Afrique, François-Xavier Verchave. La France-Afrique, il y a quand même peu de causes qui sont aussi bien résumées en un seul mot. Hein? La France-Afrique. C'est un mot formidable. C'est presque miraculeux, un jeu de mots pareil.
C'est pour ça, quand on monte dessus, en 1994, on ne l'a plus quitté, car effectivement, malgré les très grandes résistances à ce que cela désigne, les ignominies de la France en Afrique, le terme est parlant et maintenant il n'est plus récusable. Je suis tombé sur ce mot qui, en fait, avait été employé 30 ans plus tôt par Oufouette, mais lui c'était dans un sens fusionnel, car il ne voulait pas l'indépendance tout simplement, il voulait qu'il y ait une espèce de fusion entre les anciens pays colonisés et la France.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce combat ?
Je n'en ai jamais eu envie. Personnellement, ce qui me motive depuis une quarantaine d'années, c'est le refus de l'extrême misère dans le monde, de la faim dans le monde. C'est pour ça que j'ai étudié, que je me suis battu et que j'ai adhéré en 1984 à la campagne survie lancée par 126 prix Nobel qui disait que ces questions de faim et d'extrême pauvreté n'étaient pas de l'ordre caritatif, de l'ordre humanitaire, mais relevaient de décisions politiques. Et pendant 10 ans, au sein de cette association, nous nous sommes battus pour faire en sorte que la générosité collective des Français et l'aide publique au développement servent vraiment à lutter contre la faim et l'extrême misère. Nous avons obtenu l'appui des 3/4 des députés. Et puis, cette loi, malgré ce soutien sans précédent sous la Ve République, n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Et on s'est rendu compte progressivement que derrière la coopération, derrière la relation franco-africaine, cette soi-disant générosité, il y avait une corruption gigantesque, une criminalité économique incroyable, et avec la complicité française lors du génocide au Rwanda, on s'est rendu compte aussi que cette criminalité économique se doublait d'une criminalité politique invraisemblable, hallucinante. Et donc, ce refus, cette envie de notre association de dénoncer l'innommable n'a pas été un choix prémédité. Au contraire, au début, nous étions une association très consensuelle. L'aide publique au développement, ma foi, ça réunit à peu près tout le monde. Et on est tombé derrière sa négation totale, l'aide secrète au contre-développement et l'ensemble des manœuvres de confiscation des indépendances qui se sont traduites par d'innombrables guerres civiles, par le pillage du continent. Donc c'est pas du tout quelque chose de prémédité. On est tombé dedans par hasard.
Ah, vous êtes tombé dedans par hasard. Ça donne aujourd'hui l'association Survie. Ça donne une série de bouquins. En 98, vous publiez La France-Afrique, le plus grand scandale de la République. Vous publiez Noir Silence, vous publiez Noir Chirac. Et ça vous vaut quand même pas que des amis, vous faites pas que des amis en publiant ces bouquins, et notamment vous avez été poursuivi par des chefs d'État africains, vous avez été relaxé, enfin c'est quand même un combat assez rude.
Oui, mais on ne peut pas ne pas le mener, si vous voulez. J'ai été éduqué, comme beaucoup de Français, dans les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et je pensais qu'elles s'appliquaient. Quelque part, pour nous, pour nos enfants, c'est quelque chose d'inimaginable de se dire que, à la fois, nous prétendons aider les peuples du Sud à sortir de leur sous-développement, et qu'en même temps, on fait exactement l'inverse, et pas seulement des choses pas bien, mais le pire, souvent le pire, jusqu'au soutien à des génocidaires au Rwanda ou à des criminels contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Donc, quelque part, on ne peut pas ne pas mener ce combat, et on s'aperçoit que progressivement, on retrouve autour de ce combat de plus en plus de gens. Bien entendu, les Africains se sont reconnus dans les analyses que nous avons faites longuement, et d'autre part, de plus en plus d'associations françaises, même au départ qui étaient réticentes, se rendent compte que nous avons raison et rejoignent notre combat, par exemple, contre les dictatures en Afrique.
La politique en Afrique, c'est du blague et tu es. La politique américaine, Africa, ouais, c'est du blague et tu es. Puis nous vendons les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et c'est des êtres surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon. Ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blaguetier. La politique américaine-Africa, ouais, c'est du blaguetier. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer.
Il pille nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique américaine-Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es.
François-Xavier Verschave, pourquoi est-ce que depuis si longtemps la classe politique française s'abstient de dénoncer ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est-à-dire le système de la France-Afrique?
Mais il y a des intérêts énormes. La colonisation, ça a profité à beaucoup de gens. La colonisation, c'est au sens strict une exploitation. C'est-à-dire qu'on prend pour pas grand-chose les richesses d'un pays. Il y a du travail forcé, avant c'était l'esclavage. Et quelque part, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches à travers ces richesses naturelles. La néocolonisation conçue par Focard, le bras droit de Gaulle, c'est encore plus pratique. Parce que là, il n'y a pas le colon blanc qui s'impose. On met à la place un gouverneur qui a l'apparence d'être un homme du pays, d'être un Africain ou un Togolais, et qui continue la même politique, entouré de conseillers français, militaires, financiers, politiques, juridiques et autres. Et
puis on n'a plus l'alibi de la mission civilisatrice. On est obligé de construire des hôpitaux, des routes et des écoles.
Exactement. Donc s'il y a des policiers qui torturent, s'il y a un flicage généralisé de la population, ça ne pose guère de problème, puisque notre président de la République a dit à un moment donné qu'il ne pensait pas que les Africains soient mûrs pour la démocratie.
Enfin, c'est quand même vite dit, parce que on a eu des politiques de gauche, on a eu des politiques de droite dans ce pays. Il n'y a pas que des gens, et il y a quand même des journalistes, il y a quand même des observateurs. Pourquoi un tel silence sur cette France-Afrique depuis si longtemps?
Alors, je renvoie à l'affaire Elf, la pompe Afrique. C'est que évidemment, ce système extraordinairement juteux a été et est encore l'une des principales sources de financement de la vie politique, de la classe politique française, et par conséquent, très peu de leaders politiques français ne sont pas mouillés, compromis dans les retombées de la France-Afrique. Si on voit à travers ce que raconte Sirven, ou ce qu'il ne raconte pas, mais qui a été décrit par ailleurs, on sait bien que l'argent du Gabon, du pétrole du Gabon, du Cameroun, tout ça, a irrigué bien au-delà de la droite, à gauche, à l'extrême droite, et donc tout le monde a en quelque sorte un bœuf sur la langue. Et du côté de la presse, ça fait partie de deux ou trois domaines, comme le nucléaire, où tout ou presque est verrouillé. Ça fait partie des domaines où les services secrets jouent un rôle très important dans la désinformation, dans les pressions sur les journalistes. Et il y a finalement très peu de presse libre, de médias libres sur ces questions.
Ça fait un peu complot ce que vous racontez. On a l'impression que vous êtes en train de décrire un complot, une machination.
Oui, c'est ce qu'on nous reproche parfois. Mais vous savez, nous avons travaillé pendant 15 ans sur l'aide publique au développement. Nous n'imaginions pas que le côté secret était aussi important. Les services secrets, ça existe. Et la raison fondamentale pour laquelle on est, en l'occurrence, dans l'inavoué, l'inavouable, c'est que le point de départ est déjà une escroquerie au peuple français. En 1962, De Gaulle, terminant la guerre d'Algérie, a demandé au peuple français, par référendum, s'il voulait tourner la page de la colonisation. Le peuple français, à 80%, a dit oui. Il n'imaginait pas que dans le même moment, le bras droit de Gaulle, avec toute une partie de l'Afrique, allait faire exactement l'inverse de ce qui était déclaré, c'est-à-dire mettre en place tout un système de dépendance, les réseaux Focard. Donc, puisque c'est contraire à la nouvelle légalité proclamée, ça ne peut être que cachée au culte. La France-Afrique est cachée parce que elle est contraire à la légalité internationale. Elle est inavouable. Et c'est pourquoi on dit c'est un complot. Mais effectivement, la France-Afrique, c'est un complot contre l'Afrique, c'est-à-dire la confiscation des indépendances. Et ce complot dure depuis 40 ans.
Monsieur Loïc Le Floch Prigent.
Monsieur Alfred Sirvin.
Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Voilà.
Actuellement, à l'exposition Colonia, cette ligne a pour objet l'instruction et l'éducation des adultes illettrés, français et étrangers.
Monsieur Loïc Le Floch Prigent.
Le système a été créé par le général de Gaulle.
Voilà, voilà.
De Gaulle.
Notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts?
De Gaulle.
Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. Quels sont nos intérêts?
Et comme Jacques Chirac m'a dit, ça n'ira pas jusqu'à la mairie de Paris. Je dois avouer que, sur le moment, je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion.
Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Qu'il y ait eu des ententes avec une entreprise par-ci, une entreprise par-là. Mais ça, c'est tout à fait probable. Mais qu'il y ait eu un système où les partis politiques de la majorité et de l'opposition se seraient bien ensemble pour se partager je ne sais quel gâteau. Bon, si la justice est démontrée, je serai le premier à le condamner. Mais honnêtement, je n'y crois pas beaucoup.
Monsieur Sirvin, approchez-vous un instant, s'il vous plaît.
Le tribunal.
Confirmez-vous qu'il y avait, monsieur, des financements d'hommes politiques français chez Elf?
Ce n'était un secret pour personne qu'Elf servait depuis toujours à ces choses-là.
Quels sont les intérêts?
Est-ce que toutes les opérations donnaient lieu à des versements de fonds occultes, monsieur?
Que nous découvrions.
Il me semble que vous le savez mieux que moi, c'est la raison de ma présence ici. Nous avions besoin de dégager des fonds.
Quels sont nos intérêts?
Les Monsieur Tarallo, s'il vous plaît, approchez.
Les commissions. Dans le domaine pétrolier, on parle de bonus. Il y en a de plusieurs sortes, les bonus officiels, prévus par les contrats. Par exemple, la compagnie pétrolière qui convoite un permis d'exploration s'engage à financer la construction d'un hôpital, hein, d'une école, d'une route.
Si à la fin ça se termine dans un orphelinat, je suis content, mais ça ne se termine pas toujours dans un orphelinat.
Voilà. Peut-être faut-il que je développe un peu.
Voilà.
Impossible.
François Mitterrand.
De proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi.
L'audience est reprise. Vous pouvez vous rasseoir.
Le tribunal.
Monsieur Loïc Le Floch Prigent. Monsieur, vous nous avez bien dit que vous connaissiez l'existence d'une caisse noire destinée à financer les partis politiques.
Tout à fait.
Madame la greffière, notez s'il vous plaît cette phrase. Il ne pouvait en être autre.
Tout à fait, tout à fait.
Je l'ai déjà dit, j'ai financé tous les partis.
C'est comme chiant.
Enfin, démocratique, à l'exception du Front National.
Je ne peux pas y croire, je n'y crois pas.
Bon, il est bien évident que si jamais un homme politique français est financé par Omar Bongo ou par tel autre responsable africain, ce type de retour, je l'inclus dedans. C'est toujours de l'argent d'Elf.
Voilà.
On va appeler un chat un chat. Elf a été créé pour maintenir l'Algérie et les rois nègres dans l'orbite française par le biais du pétrole. Avec les Algériens, ça a capoté, avec les rois nègres, ça se poursuit.
Alors voilà, l'affaire Elf au théâtre, Elf, la pompe Afrique, avec un seul comédien, mais qui fait absolument tout, qui fait tout le procès, et qui fait beaucoup plus que ça, il raconte l'histoire de cet énorme scandale qui est toujours l'affaire Elf, il s'appelle Nicolas Lambert.
Le tribunal. L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Alfred Sirvin, s'il vous plaît, approchez-vous. Monsieur Alfred Sirvin, vous êtes né le 6 janvier 1927 à Toulouse, engagé dans la résistance gaulliste à moins de 20 ans, puis dans le bataillon français de Corée en 1951, vous avez été blessé et cité 4 fois à l'ordre du mérite. Alors, le tribunal a lu également qu'à votre retour, vous reprenez des études de droit et vous vous portez candidat à l'école de la magistrature. Et
oui, mais j'en ai pas donné de suite, monsieur le président.
C'est plutôt la magistrature qui semble n'avoir pas donné de suite, monsieur. Vous abordez alors une longue carrière dans la gestion du personnel chez Mobil, puis chez Moulinex. Vous avez été ensuite l'adjoint de Serge Tchuruk chez Rhône Poulenc, où vous rencontrez monsieur Le Floch Prigent. Vous contribuez d'ailleurs en 1989 à sa nomination à la tête de la SNEA, Société Nationale Elf Aquitaine, dans laquelle celui-ci vous nommera, dès son arrivée, directeur des affaires générales d'Elf. Y a-t-il une erreur, monsieur ? Il semblerait au tribunal que vous ayez perçu des revenus de l'ENA en 1987.
Alors là, je rêve.
Bien. Merci, monsieur Sirvin. L'audience est suspendue.
Le procès Elf. Vous avez assisté, Nicolas Lambert, pour nous à ce procès. Maintenant, vous nous reconstituez à votre façon, tout seul en scène, ces 4 mois de procès avec ces 37 personnages. Hein. Il y avait 37 personnages.
37 prévenus, ouais.
37 prévenus. Voilà, vous tout seul sur la scène, vous nous racontez tout ça. Mais est-ce que, comme dans d'autres cas, dans d'autres procès, c'est pas là une mise en scène que la justice constitue, forcément, qui permet de dissimuler l'arrière-cour ou l'arrière-plan politique de cette affaire de France-Afrique.
Ça y ressemble. On a affaire à un premier discours qui est celui de Elf qui demande à ces gens-là d'avouer si ou non ils ont détourné de l'argent public pour des fins personnelles. C'est ça qui doit être jugé. Finalement, en soulevant la couverture, on se rend compte que cet argent, bah, quand il allait sur des comptes personnels, c'était effectivement pour aller dans la direction de tel ou tel parti politique. Et quand bien même c'est tel parti politique, bah, en fait, il y a pas. Alfred Sirvin n'avait pas affaire juste, comme il le dit, au trésorier. Il y a des clans dans les partis politiques, donc il était chargé de répartir les différentes commissions dans ces différents endroits. Mais c'est pas le problème du tribunal. Le problème du tribunal, c'est de savoir si ces gens-là ont détourné de l'argent public pour des fins personnelles. Donc on revient à ce système-là, et on revient à cette question-là. Ce qui a quand même été dit par le Floc Prigent, notamment dans son livre Aveux, Elf avait 3 objectifs, industriels, diplomatiques et politiques. Et lui, il se considérait, en tout cas, il considérait qu'on lui avait attribué ce poste comme celui d'un ministère bis de la coopération.
L'audience est reprise, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Loïc Le Floc Prigent, s'il vous plaît. Monsieur Loïc Le Floc Prigent, vous êtes né le 21 septembre 1943 à Brest. Après votre bac, vous étudiez à Polytechnique à Grenoble, puis à l'université de Kansas City. Ingénieur, vous êtes fonctionnaire au ministère de l'Industrie et devenez le directeur de cabinet du ministre Pierre Dreyfus. Vous êtes ensuite nommé PDG de Rhône-Poulenc, mais la première cohabitation vous écarte en 1986. S'ensuit une période de traversée du désert au cours de laquelle vous rencontrez Madame Fatima Belaïd, pour qui vous quittez votre première épouse. En 1989, le président François Mitterrand vous nomme PDG de la Société Nationale Elf Aquitaine, SNEA, que vous devrez quitter 4 ans plus tard, lors de la deuxième cohabitation. Vous serez nommé à ce moment-là à la tête de Gaz de France, puis en 1995 à la direction de la SNCF. Le tribunal mentionne enfin que votre titre d'officier de la Légion d'honneur vous a été remis par François Mitterrand. Est-ce exact, monsieur Le Floc Prigent ?
En effet, monsieur le Président, et mon adresse actuelle est Allée des Tuyas, à Fresnes.
Bien, merci, monsieur Le Floc Prigent. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur.
Ça nous donne l'occasion de retracer peut-être un petit peu, François-Xavier Verchard, l'histoire de Elf. Je me souviens, quand j'étais gamin, des ronds rouges, ils arrivent, hein. Elf, c'était au début des années 60. C'était présenté comme le moyen d'assurer notre indépendance pétrolière, quand même, Elf.
En fait, il y avait déjà Total. Mais Total n'était pas assez bien contrôlé par le pouvoir politique gaulliste. Donc, De Gaulle a chargé Pierre Guillaumat, l'un de ses fidèles, de créer cette entreprise qui allait à la fois servir à trouver et à vendre du pétrole, mais surtout à servir de caisse noire de la France-Afrique et de support financier de tous ces mauvais coups.
C'est ce que dit Nicolas Lambert, quoi. 3 fonctions industrielles, diplomatiques et politiques.
Oui, et
c'était aussi explicite que ça dès le départ, non?
Tout à fait, bien sûr. Et une des fonctions qui était de ramener de l'argent pour le financement des activités politiques en France, et puis la corruption, disons aussi, de la classe politique, de manière à acheter son silence, ce n'est pas le seul usage. L'autre usage très important, c'était de financer l'action des services secrets français en Afrique, dans les différents coups d'État, guerres civiles, tout ce que le Parlement français n'aurait pas forcément voté facilement.
Bon, vous nous éclairez sur les raisons des silences de la classe politique et des médias, mais enfin, il y a une opinion en France. Pourquoi est-ce qu'aussi longtemps, l'opinion, aussi mal éclairée fut-elle, se montre aussi indifférente, alors que le contribuable français, lui aussi, est spolié dans cette affaire? Les Africains, on a compris, sont volés, dépouillés de leurs propres biens, de leurs matières premières, on a compris, mais aussi bien nous autres.
Oui, l'indifférence, la non-réaction de l'opinion est pour nous effectivement la question la plus centrale, lancinante. Bien sûr, l'opinion a été roulée, elle a été désinformée. Mais en même temps, il y a eu des livres de temps en temps qui sont parus, des bouts d'articles, de reportages. Je crois aussi qu'une grande partie de l'opinion française ne veut pas vraiment savoir. D'abord parce que quand vous découvrez cela, ce qui a été notre cas, et que j'ai retranscrit par exemple dans un livre comme « La France-Afrique », eh bien, vous êtes cassé en deux. Quelque part, toute votre représentation de la grandeur de la France, elle vole en morceaux. Et je connais des tas d'amis qui ont eu un mal fou à aller au bout de la lecture de mes livres. C'est un choc. On préfère continuer avec nos illusions de la grandeur de la France.
La France est un empire fait d'une métropole et de provinces lointaines qu'unissent les liens du cœur autant que ceux de l'intérêt. Cet empire s'est formé lentement, patiemment, par l'effort conjugué des explorateurs, des soldats, des missionnaires, des commerçants et des colons. 1830, conquête de l'Algérie. Nous avons pris pied sur la terre d'Afrique, y retrouvant la trace de Rome.
Mais ce que les Français ne savent pas assez, c'est que ce système les vole également, après avoir volé les Africains.
Est-ce qu'on sait dans ce que ça coûte par an aux contribuables français cette France-Afrique? Vous avez chiffré ça?
C'est très facile à calculer, puisque aujourd'hui, sur l'aide publique au développement de 6 milliards d'euros par an, on est déjà à plus de 2 milliards, presque bientôt 50%, qui est tout simplement la remise des dettes, c'est-à-dire tout simplement on rembourse les gens qui n'ont pas été payés. C'est de l'argent qui ne quitte pas la France et qui est payé par les contribuables français pour réparer une partie des dégâts. À cela s'ajoute tout l'argent de ce qu'on appelle l'assurance crédit public, les contrats qui n'ont jamais été honorés. On a soi-disant vendu des choses pour des sommes énormes qui ont fait travailler les gens en France, mais ces contrats n'ont jamais été payés. Et finalement, c'est encore le contribuable français qui paye.
Attendez, comment ça marche? Moi, j'ai besoin de comprendre. L'aide publique au développement, moi, je me dis, c'est bien l'aide publique au développement. On a la France aide ces pays pauvres, ces pays malheureux. Donc, je suis pour l'augmentation de l'aide publique.
Mais nous le sommes.
Publique.
À condition qu'elle soit bien utilisée, qu'elle serve véritablement.
Expliquez-nous comment on pompe le fric. Comment fonctionne la pompe à fric? Entre mes impôts que je paye, moi, honnêtement, chaque année.
Eh bien, c'est très simple. Vous avez l'une des principales banques de l'aide publique qui s'appelle l'Agence française de développement. Cette Agence française de développement a prêté à des pays africains. Elle a prêté de l'argent qui a été aussitôt détourné dans le système dont nous venons de parler. Ces pays, ruinés, ne peuvent pas rembourser. Eh bien, à ce moment-là, on dit qu'on va annuler une partie de cette dette, et ce que le pays devait verser à l'Agence française de développement, c'est le Trésor public français qui va le verser en appelant ça aide publique au développement. Donc c'est de l'argent qui ne quitte pas Paris, qui va d'un compte en banque à Paris à un autre compte en banque à Paris, qui est appelé aide publique au développement, et qui sert tout simplement à éponger les dégâts de méga détournement qui durent depuis des décennies.
Ainsi dans l'Afrique, boit du fric. Ainsi dans l'Afrique, boit du fric. Ainsi dans l'Afrique, boit du fric.
Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée.
Ainsi dans l'Afrique, boit du fric. Ainsi dans l'Afrique, boit du fric. Ainsi dans
dans l'Afrique doit du fric. Ainsi dans l'Afrique doit du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins des survins, les crédits des débits. Aïe aïe.
Ainsi dans l'Afrique doit du fric. Ainsi dans l'Afrique doit du fric.
Les complots du FMI et les plaques de la Banque mondiale. Des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs. Les fonds comptes de compte et les sales sous de sa soupe.
Ainsi dans l'Afrique doit du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet bouffés, les gombos des bongos, ya ya ya.
Ainsi dans l'Afrique doit du fric. Ainsi dans l'Afrique doit du fric.
Est-ce que l'Afrique doit encore? Est-ce que l'Afrique doit encore?
Le tribunal. L'audience est reprise. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur André-Antoine Charles-Napoléon Tarallo, ce sont près de 300 millions de francs qui peuvent vous être reprochés. La question du tribunal est précise. Répondez clairement et précisément. Qui donnait instruction de créditer vos comptes, monsieur?
L'instruction de virement elle-même était soumise à Loïc Le Floch-Prigent. Sinon, elle n'aurait pas pu exister.
Donc, ces virements n'ont pu être faits que sur l'instruction de monsieur Loïc Le Floch-Prigent?
Il ne pouvait en être autrement.
Et notez, s'il vous plaît, madame la greffière, cette phrase. Il ne pouvait en être autrement.
François-Xavier, qui était André Tarallo? Enfin, qui est André
Tarallo? Non, il ne l'est plus. C'était le monsieur Afrique Delphes. C'est-à-dire le responsable des contacts avec du management des chefs d'État africains, dont il faut préciser, c'est très important, que ces gens-là étaient des salariés Delphes. Alors évidemment, on comprend bien que pour les peuples concernés, c'était pas leur intérêt qui était défendu, puisque leur chef d'État était payé par Delphes, était abonné par Delphes. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est comme si, imaginez, nous avions de grandes richesses, d'immenses richesses en France, de pétrole ou autre, qui soient exploitées par une société américaine, et que notre président de la République soit salarié par cette entreprise américaine. On imagine quand même que ça ferait un peu désordre.
L'un et l'autre, François-Xavier Gerchave et Nicolas Lambert, vous parlez tous les deux à l'imparfait. Vous dites « c'était ».
C'est
on a... Voilà. Alors, est-ce que c'est une page qui est tournée, celle de la France-Afrique, ou bien est-ce que ça continue?
Parce
qu'on dit maintenant, mais attendez, la France se retire ou se fait virer de son précaré au profit d'autres États ou d'autres convoitises, les convoitises des multinationales, par exemple. Alors, est-ce que ça continue? Est-ce que c'est terminé? Où ça en est?
Je pense que c'est très important de tordre le cou à toute une série d'idées, de thèses qui sont des thèses de propagande. L'idée que la France-Afrique est terminée, elle est née aussitôt que le concept a été victorieux. C'est-à-dire dès que les gens se sont rendus compte que la France-Afrique, ça correspondait à quelque chose, aussitôt, d'innombrables articles très argumentés ont dit « mais tout ça, c'est terminé depuis 5 ans ». Ou depuis 10 ans, c'est comme Jacques Chirac disant en 1995, le financement parallèle des partis politiques c'est fini depuis 1990. En 2002, il dit c'est fini depuis 1995. Et en 2007, il dira c'est fini depuis 2002. C'est-à-dire, en quelque sorte, on repousse dans un passé indéfini ce qui, en fait, continue toujours. Pour des raisons très simples, les mécanismes de détournement par les paradis fiscaux n'ont jamais été aussi prospères. Les paradis fiscaux se multiplient, l'argent qui passe par là atteint aujourd'hui la moitié des transactions financières internationales. D'autre part...
Hors contrôle des États.
Absolument, tout contrôle, ouais. Comme les juges l'expliquent parfaitement. D'autre part, la présence militaire, le fait que toutes les armées de ces pays étaient formées par l'armée française et contrôlent encore au moins les 3/4 de ces pays. Tout ça, ça continue. On croyait qu'il y a des mâts, on allait être dans débarrassé. Et finalement, on s'aperçoit que il a un fils, Baby Yadema, comme autrefois Baby Doc pour le dictateur Duvalier. Donc, tout ça, en fait, si on n'y met pas un terme, ça continue. Ce qui est un tout petit peu différent, et là aussi c'est une autre idée reçue, c'est que très souvent on dit la France fait ça pour pas que ce soit les Américains. Autrement dit, les saloperies françaises, c'est comme un petit peu plus cultivé que les saloperies que vont faire les Américains. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de différence en la matière, mais simplement, tout ça, c'est une propagande à usage subalterne. On s'aperçoit très bien que quand il s'agit de choses sérieuses, comme le pétrole angolais ou ailleurs, eh bien, les grandes multinationales françaises et américaines trouvent des deals et qu'elles s'arrangent. Quelque part, on nous fait croire qu'il y a cette rivalité, mais en réalité, il y a des alliances pour continuer à piller l'Afrique. Et le troisième point, qui est également un instrument de propagande, consiste à dire, mais tout ça, c'est pas une responsabilité des politiques, c'est une responsabilité des multinationales qui gouvernent le monde.
Oui, avec la mondialisation.
Mais tout ça, c'est pipeau. Parce que les multinationales, elles sont nationales. Elles ont un siège national. Exxon, c'est une multinationale, mais Exxon, c'est les États-Unis, c'est Bush, etc. Total, c'est la France. Même si c'est une multinationale, toutes les multinationales, en fait, servent des intérêts nationaux et travaillent de manière prioritaire avec des politiques et des militaires nationaux, car toutes ces multinationales se font également protéger dans ces pays par le système militaire de leur pays d'origine. Donc, quelque part, évoquer la toute-puissance économique des multinationales, c'est gommer la dimension totalement politique du rôle de ces multinationales. En fait, c'est un agrégat entre l'économique, le politique et le militaire, qui fonctionne encore en partie au niveau national et qui, quelque part, trouve des arrangements autour de ce qu'on appelle le G8, Davos ou autre, et qui continue les mêmes problématiques.
Alors, François-Xavier, vous nous disiez quand même qu'il y a quelques pays, le Mali, Niger, Madagascar, Sénégal, etc., qui commencent à échapper.
Et encore plus dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire que et là, c'est aussi l'espoir de l'Afrique, c'est que de grands pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, etc., sont des pays où les peuples choisissent librement leurs dirigeants.
Alors il y a cet espoir-là, puis il y a aussi un autre espoir, c'est le succès du spectacle de Nicolas Lambert quand même. Mais c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue, c'est qu'il y a des peuples, il y a des populations, il y a des gens, des femmes, des hommes et des enfants qui morflent, qui souffrent et qui sont et qui trinquent depuis si longtemps dans leur vie quotidienne, ces misères, ces images. C'est très difficile de séparer le mot Afrique de la pauvreté, des images de pauvreté. Cette pauvreté, elle est liée à cette néocolonisation que vous décrivez.
Ce qui est hallucinant dans le procès Elf, c'est que le seul plaignant, c'était Elf, qui continue les mêmes pratiques. Il n'y avait pas les peuples africains, parce que les véritables plaignants, ceux qui sont les victimes de tout ça, c'est les peuples africains. Et aussi, accessoirement, les contribuables français, qui doivent éponger tout ça. Mais, au départ, les principales victimes n'étaient pas représentées. Et c'est pour ça que ce procès, quelque part, il a pu jouer ce rôle de coupe-feu.
Alors Nicolas, oui, réaction du public africain qui vient, des Africains qui viennent nous voir.
Oui, une réaction de... Là, c'est une réaction d'émotion. C'est très affectif et de dire, mais c'est étonnant d'entendre enfin ce discours-là. Comment se fait-il qu'on ne l'entende pas ailleurs? Comment ça se fait que c'est à ce point contenu?
Alors, réaction donc de ce public africain. Il y a des cadres de Elf qui viennent vous voir aussi?
Oui, alors là, il y en a...
Les repentis?
Il y en a un paquet, mais aussi d'autres entreprises actuelles qui me disent, c'est super ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qui se passe dans ma boîte. Ben, je vais amener ma famille, parce que c'est bien qu'ils comprennent ça.
Des juges et des magistrats.
Ah, il y a aussi des juges, des magistrats proches du procès aussi, d'ailleurs, qui sont venus, ou des responsables d'Elf très proches de ceux qui sont jugés, oui.
François-Xavier, c'est quand même encourageant, ça, non?
Oui, et puis je
faut
pense que
qu'on ait une petite raison.
Mais j'allais dire, il y a des choses encore beaucoup plus encourageantes, c'est les réactions africaines, parce que tout le travail que nous avons fait et qui est peu connu en France, il est extrêmement connu en Afrique. C'est-à-dire que quelque part, les gens commencent à comprendre comment ils sont opprimés, pillés, et on voit bien également qu'il y a des réactions beaucoup plus institutionnelles qui se mettent en place à travers la montée en puissance formidable de l'Union africaine, qui sur l'affaire du Togo, par exemple, n'a pas mâché ses mots.
Oui, très présente.
Donc,
oui.
Il y a évidemment la réaction viendra d'abord d'Afrique. Ce qui est aussi pour moi une source d'espoir importante, c'est la réaction des artistes africains. Par exemple, nous avons lancé une campagne contre la perpétuation du soutien français aux dictatures africaines. Et puis il y a un tas d'artistes africains, de chanteurs, de reggae, de rap, d'autres qui se sont réunis pour rassembler leurs talents dans un CD assez extraordinaire pour dire aussi leur envie d'émancipation. D'ailleurs, le titre s'appelle Africa Wants to be Free. L'Afrique veut être libre. Il est tout à fait explicite. Donc, il y a un engagement de plus en plus fort au niveau des opinions. Et je crois que ce sera sûrement le moteur principal de la fin de cette France-Afrique archaïque et insupportable.
François-Xavier, je sais ce que les auditeurs vont dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau?
Moi, je demanderai une seule chose à mes concitoyens. Avoir le courage d'ouvrir les yeux.
Le tribunal. L'audience est reprise. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Loïc Le Floch-Prigent, s'il vous plaît. Pensiez-vous aussi, monsieur Le Floch-Prigent, servir l'État et la République en ne répondant pas aux provocations de la justice et en contraignant madame la juge Eva Joly, chargée de l'instruction de ce dossier, de vous arrêter, monsieur, et de mettre en prison ainsi le président de la SNCF que vous étiez alors?
Les plus hautes autorités de l'État m'avaient en effet demandé de ne pas répondre à la convocation de cette magistrate au début de l'enquête.
Qui, monsieur Le Floch-Prigent?
Le président Jacques Chirac, qui est au courant de tout ce que je sais, exactement comme Mitterrand l'était, comme le premier ministre Alain Juppé et plusieurs autres ministres ou anciens ministres, Bernard Ponce, Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac m'a dit « ça n'ira pas jusqu'à la mairie de Paris ». Je dois avouer que sur le moment, je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion.
Pas d'autres questions? L'audience est suspendue.
Je vais vous dire très franchement une chose, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Qu'il y ait eu des ententes avec une entreprise par-ci, une entreprise par-là, mais ça c'est tout à fait probable. Ça faisait partie de ces dérives que je dénonçais tout à l'heure. Mais qu'il y ait eu un système où les partis politiques, de la majorité, de l'opposition, se seraient mis ensemble pour se partager je ne sais quel gâteau. Bon, si la justice est démontrée, je serai le premier à le condamner. Mais honnêtement, je n'y crois pas moi.
C'était Là-bas si j'y suis. Merci au regretté François-Xavier Verschave, à Nicolas Lambert et à l'association Survie. À lire Gris-Gris, le quinzomadaire satirique France-Africain, avec notamment dans son numéro 45 un article de Patrick de Saint-Exupéry sur le livre de Pierre Péan. Pierre Péan, une vieillesse française. À voir de Nicolas Lambert la pièce Elfe Pompe Afrique jusqu'au 23 décembre 2005 à 20h30 à Paris, à la Fenêtre, dans le 11e arrondissement, 77 rue de Charonne. Plus d'infos sur le site charlie.noé.free.fr. Pour les repères des amis de là-bas, si j'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, chaîne France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, à la technique ce soir, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello et Christophe Imbert, chef du répondeur. Prochaine nouvelle de Daniel Marmet, actuellement en reportage à Mayotte, c'est demain à 17h.